Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Suite de la conversation au long cours avec Marion et Benjamin, nous abordons le contexte général dans lequel l'agriculture évolue aujourd'hui et ce qui l'attend pour les prochaines décennies.
Quand vous faites le marché, vous le faites tous les deux ?
Le général, souvent. Ouais.
Le retour des clients, ça vous plaît ? Enfin, faire le marché, c'est quelque chose de plaisant.
Ah, ben ça. On le manquerait pour rien au monde, ni Benj, ni moi.
Ouais, c'est mieux. Non, mais le marché, c'est la récompense. Hein. Si tu veux, c'est là où les rapports avec le client, ils sont les plus sincères. Le marché, c'est cruel, c'est pitoyable, le marché, parce que les gens, s'ils trouvent que t'es trop cher, ben, ils t'en prennent pas, ils se cassent, ils trouvent que c'est pas bon, ils viennent plus, ils vont voir ailleurs. Ou ils te le disent, ils disent, ben, ça, c'était pas bon, tu te le prends dans les dents, le râteau. Par contre,
en contrepartie,
c'est sincère, parce que les gens, ils attendent rien de toi, juste que tu revendes à bouffer et que ça soit bon. Quand tu vas à un magasin, quel qu'il soit, quoi qu'il en dise et quel qu'il soit, c'est pas lui qui va les manger, les légumes. Donc il va toujours avoir d'autres exigences que le consommateur final. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait l'évolution de l'agriculture, c'est bien l'évolution de la distribution. C'est la place qu'ont pris les magasins, quand on dit magasins, c'est les centrales d'achat et la grande distribution. Mmh. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était de l'homogénéité, de l'aspect, de la tenue en rayon, et ensuite la qualité gustative, ça passait en 30e position. Il fallait que ça soit beau dans le rayon, voilà, et que ça tienne, qu'il y ait le moins de pertes possible.
Bien calibré, tout ça.
Voilà, c'est ce qui a fait que la recherche agronomique était orientée sur les variétés qu'on voit maintenant, les tomates, la tomate caillou, là, que tu peux jeter, qui rebondit. Voilà, tous ces trucs-là, je veux dire, c'est pas venu aux idées des sélectionneurs à la demande des paysans. Mmh. C'est venu à l'idée des sélectionneurs parce que les distributeurs ont demandé aux producteurs de leur fournir quelque chose qui ressemble à ça. Et les producteurs ont dit, oui, ben ça, on n'a pas, le matériel génétique qui permette ça. Donc les sélectionneurs ont orienté la sélection là-dessus. Ils ont bien bossé, parce que maintenant, effectivement, c'est plus trop un problème. Mais, si, c'est un problème, parce que du coup, tu donnes ça, on te demande ça. Ouais. Donc la tomate, il fallait qu'elle se garde, 5 jours. Mais après, c'était plus assez, donc après, ils ont fait ces tomates long life, là, avec le gène où elles tiennent, un mois dans la cagette et ne bronchent pas.
Ah ouais, c'est dingue.
Et ouais.
Ça, non, mais je connaissais même pas, tu vois.
Long life.
Voilà, mais pour dire que les intérêts des distributeurs, c'est pas les mêmes que ceux des consommateurs.
Eux, ils veulent de la fraîcheur, les consommateurs.
Et quand t'es,
la fraîcheur et du conseil.
Fraîcheur, qualité, du goût, voilà.
Et du conseil, hein, ils veulent le contact. Hein,
et du conseil. Hein.
Si vos enfants ou quelqu'un d'autre aimerait s'installer, par exemple, en maraîchage, est-ce que vous le conseillez ce métier ? Si vos enfants, ils veulent faire maraîcher,
nous, honnêtement, si on me fait ça, c'est pour que ça continue, quoi. Tu vois.
Si Baptiste reprend la ferme, c'est...
Voilà, évidemment, on serait content.
Évidemment. Bien sûr, on lui en parle pas, hein, mais bien sûr, voilà, bien sûr.
Évidemment que ça nous ferait plaisir, quoi. Après, les avantages, c'est d'être dehors, d'avoir de comptes à rendre à personne, à part à tes clients, de produire de la nourriture, c'est quand même une base, quoi. C'est philosophiquement, on peut dire que c'est essentiel, ça. Après, les inconvénients, les dangers, quoi, c'est de se faire manger par le travail et que le travail ne soit plus une passion un jour, pour plein de raisons. Ça pourrait ne plus être une passion. Si c'est plus une passion, comme tout travail, je pense que c'est terrible, en fait. Mmh. Voilà, faudrait que les gens ils aient tous des travails qui les passionnent, quoi.
Il y en a très peu.
Il n'y en a pas beaucoup, Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça, je sais qu'on a une chance,
quoi. On a beaucoup de chance,
quoi. Et même il y a des paysans pour qui c'est pas une passion leur travail, je sais pas comment ils font pour le faire, ça doit être terrible. Et je pense qu'il y a une part du malheur du monde agricole qui vient de là. Parce qu'il y en a qui ont réussi à rendre le métier dépassionné, quoi. Dépassionnant, je sais pas comment dire. Et après, l'autre danger, c'est de se faire dépasser par la machine, quoi. On est obligé d'être de plus en plus compétitif, en fait. Mm-hmm. Même nous, Et
puis t'as grandir aussi.
Et après, tu rentres dans le cercle vicieux que tout le monde, quoi. C'est-à-dire, plus de production, ça implique plus d'équipement, et plus d'équipement, ça veut dire plus de d'investissement, plus de d'annuité, quoi. Plus d'annuité, ça implique plus de chiffre d'affaires, et plus de chiffre d'affaires, ça veut dire plus de production. Et après,
plus de travail, et voilà.
Et plus de travail aussi, et plus de charge mentale, quoi, surtout.
Et plus de main-d'œuvre, donc plus de salariés.
Et pour nous, à maraîchage, il y a quand même un paramètre qui est hyper important, c'est que...
C'est les salariés.
C'est une production qui repose, comme l'arboriculture, je pense que c'est les deux productions où il y a toujours énormément de travaux qui sont manuels, quoi qu'il en soit. Donc du coup, nous, on arrive vite à nos limites, les associés, et... tout le travail supplémentaire, c'est pas forcément des machines qui vont le faire, c'est de la main-d'œuvre, donc c'est des salariés.
Donc il faut embaucher.
Donc il faut embaucher avec les soucis, les risques que ça comporte aussi, quoi. Donc, quelque part, c'est bien parce que on est content quand ça se passe bien, on est content que les productions soient menées à terme et qu'on ramasse ce qu'on a semé, qu'on a planté. Après, c'est aussi des aléas, des contraintes. Il y a des fois où ça ne se passe pas bien aussi. C'est une prise de tête. Nous, on est très impliqués. On n'est pas, bouillis.
Fumer le cigare dans le bureau, dire ce qu'il y a à faire. Tu vois, on est avec eux.
Ce que je veux dire, c'est que la gardère, si ça se passe mal, qu'il y a un ouvrier qui déconne, lui, ça n'empêchera pas de dormir le soir. Il y a toute une chaîne de commandement dessous. Lui, il saura peut-être qu'il est stressé, mais en tout cas, c'est pas par les mêmes choses.
c'est pas le même stress que celui que vous vivez.
Voilà, il n'a pas les mains dedans, quoi. Ouais. C'est vrai que pour nous, comme pour beaucoup de petits employeurs, paysans ou artisans, on a les mains dedans, quoi. Mmh. En fait, notre quotidien n'est pas foncièrement différent de celui de nos salariés, quoi.
Si, voilà. On fait plus d'heures.
Après, il y a des travaux qu'on ne fait pas, il y a des travaux qu'on
fait pas, il y a des travaux qu'ils ne font pas.
Mais globalement, je veux dire, le travail, tout ce qu'on me fait les salariés, moi j'ai pas toujours eu des salariés, tout ce qu'on me fait les salariés, je l'ai fait avant. Voilà, donc je sais ce que c'est, la pénibilité, et je sais aussi ce que je peux attendre et ce que je peux pas attendre.
Voilà. Et quel genre de compétences ou de qualités il faut avoir pour être un agriculteur qui se débrouille bien, quoi? Est-ce qu'il faut être très travailleur?
Maraîchage, c'est la base. Hein.
Souvent, ce que je m'entends dire aussi, c'est qu'il faut être capable d'avoir plusieurs casquettes. C'est-à-dire, il faut connaître son métier. Pour ceux qui font de l'élevage, il faut être en même temps vétérinaire, puis il faut faire de la comptabilité, puis il faut faire de la maçonnerie.
Mais tu as plusieurs casquettes, entre l'administratif, la production, la vente, parce que c'est un métier de vendre aussi. Oui. Hein. Si tu n'aimes pas les gens et que tu veux faire les marchés en vente directe... Il y a plusieurs casquettes. Hein. Ouais. Quand je se met l'administratif, parce que c'est lui qui gère tout l'administratif, moi j'y touche pas. Mmh. L'école, ça m'a dégoûté en plus. c'est des heures et des heures d'arrachage de cheveux. C'est incroyable l'administratif qu'il y a. Je le voyais avant d'être installé avec lui. Là, maintenant qu'on a le GAEC, j'y touche du doigt. Quoi. Je le vois, il fait des heures. Je lui laisse des heures de bureau, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a multi-casquettes. Hein. Et il faut aussi penser à la vente.
Tu peux être une pièce sur une machine.
Mais
qu'il y a une soudure à faire, tu vas pas aller au garage laisser un billet de 50 ou 100 balles parce qu'il faut faire deux traits de soudure. Tu vas pas passer 2 heures dans la bagnole pour aller péter à Saint-Taf et payer quelqu'un pour qu'il travaille à 20 minutes. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est des choses... Moi, je savais rien faire. Hein, j'étais obligé de m'y mettre. Quoi. Mm. C'est après, sur le tas... Ça vient, mais ce qui compte avant tout, c'est d'être travailleur, d'être persévérant et d'être curieux, quoi, et de savoir se remettre en question. C'est-à-dire, pas foncer tête baissée, quoi, être toujours... Je dis ça, c'est pas une qualité que j'avais, quoi, hein. Et peut-être que je l'ai toujours pas. Hein. Moi je sais que je me suis entêté à faire des trucs, que j'aurais mieux fait d'arrêter, quoi, de suite. Si j'avais un peu levé la tête, si je m'étais un peu renseigné autour de moi, que j'avais un peu regardé les collègues, et des erreurs que j'aurais pas faites, quoi. Et il faut être critique, quoi, sur soi-même. Sur son travail, quoi, et sur ses choix. Se remettre en question tout le temps, dire là, ça a merdé, pourquoi ça a merdé? Ça n'a pas merdé parce que c'est la fatalité, c'est le destin, tu ne peux pas chercher des boucs émissaires. Tu peux toujours invoquer des éléments extérieurs, mais sauf que si tu ne te remets pas en question réellement, tu vas refaire la même connerie l'année d'après. Quoi.
Donc, vous évoluez, alors toi, d'abord, d'un regard extérieur. Et puis finalement, tu es à 100% dedans maintenant, mais vous évoluez dans l'agriculture depuis une bonne quinzaine d'années. Vous l'avez peut-être vu évoluer. Est-ce que vous aviez une idée de l'évolution qu'elle va prendre dans les années à venir? Est-ce que vous savez ce qui vous attend?
Non.
L'impact du changement climatique, la PAC, les départs à la retraite des fermes qui ne sont pas reprises.
C'est la grande inconnue. Enfin, ouais, tu vois, t'as un peu tout dit en fait.
Ouais.
Moi, je pense que sans. Bon, il y a d'abord la menace du changement climatique qui est déjà effectif, quoi. Mm-hmm. C'est pas une théorie, c'est déjà quelque chose qu'on constate.
Ouais, c'est palpable.
Bah, nous, on s'est déplacé. Hein,
oui.
On en a 15 ans de recul, mais pas au même endroit. Donc, ouais. Ça fausse un peu là, par rapport à ça, on ne peut pas vraiment comparer. Mais déjà, depuis qu'on est ici, depuis 2013, déjà on le voit, l'impact du changement climatique. Et ça, à l'avenir, ça va être un énorme problème par rapport à plein de choses, à la ressource en eau en particulier. Je parle pour nous, pour les éleveurs alentour, ça sera encore pire parce qu'ils pratiquent une agriculture qui compte sur la pluie, quoi. Voilà, pas sur l'irrigation, quand tu es sur la pluie. Donc ça va être, pour eux, ça va être une grosse remise en question, je pense. Après, la PAC, je sais pas, je pense que...
Vous n'êtes pas spécialement concerné.
Ou la PAC, c'est 2% de notre chiffre d'affaires. On l'a fait, on la demande, mais c'est pas... Les aides, c'est dérisoire. Les aides, elles sont à la surface, et nous, on a peu de surface. Donc, voilà. Donc on a peu d'aide.
En fait, souvent, on se dit, si un jour ça se casse la gueule, ben non, on ne sera pas impacté.
Oui, voilà.
Et ça, c'est une force. Enfin, moi, pour moi,
c'est une force. Bon, sauf que cette force, on la paye quand même chaque année. Quoi.
On la paye chaque
année. J'aimerais bien être un peu plus impacté. Quoi,
oui. impacté. Touché
le pognon.
Ouais, des fois quand même.
Mais voilà, si ça se casse la gueule, eh ben, on sera à l'abri.
Mais ça, la PAC, de toute façon, ils seront obligés de. Tant qu'on est dans un système libéral, en fait. Où on maintient artificiellement des prix de vente bas pour les produits alimentaires, il faut bien que ce soit compensé par quelque chose. Donc soit on supprime la PAC complètement, mais ça veut dire il faut que les agriculteurs continuent à produire, ben il faut accepter que les consommateurs, les citoyens, acceptent de payer plus cher à la consommation. C'est juste ça en fait. Je veux dire, là, les prix de la viande, les prix des céréales sur les légumes, on n'est pas concerné. Donc nous, on vend à notre prix de revient. Et souvent, d'ailleurs, on nous dit les légumes sont chers, les fruits, les légumes, c'est cher par rapport à la viande. Je dis ouais, mais les légumes, vous les payez qu'une fois. La viande, les céréales, le lait, tous les produits des grandes cultures et de l'élevage, ils sont payés deux fois. Ils sont payés par les consommateurs à la caisse et ils sont payés par les contribuables sur leur feuille d'impôt.
Ouais.
Quand le budget, le chiffre d'affaires d'une exploitation d'élevage, plus ou moins, on va dire c'est 50% d'aide, ça veut dire qu'il y a 50% qui sont payés par les contribuables. Les contribuables, ce n'est pas forcément des particuliers, c'est aussi les entreprises, c'est tout le monde. Mais en tout cas, c'est de l'argent public, quoi. Donc en fait, le prix que paye le consommateur en caisse, il peut le multiplier par deux. Avec les fruits et les légumes, il ne multiplie par rien du tout. Parce que je te dis, nous, les aides, c'est 2% de notre chiffre d'affaires.
Déshérité, tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, ils ont défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nues, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis ici au bord de l'eau. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos. C'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Oh man, perché la mare sveglia, tutto desconsolata, come mira irrompe. L'aigo sembra de pega, c'è de peia in dessuta e c'è d'ome dessù. Oh man, un tappa sana lenga, che con un siero un'uomo,
et des arbres et des vins. Oh man, vous me direz la peine, et quand ce sont facile, partie des mélanges.
Quand tu fais à ma ville, il en déshérité, tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, il en défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nuits, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son nom, c'était un coin tranquille, un petit paradis ici au bord de l'eau. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son nom, c'était un coin tranquille, un petit paradis ici au bord de l'eau.
Tutto desconsolato come mica i rumpi. E man, l'aigo sembra le pega, c'è le peie in dessuta e c'è dorme dessù. Oh man, un tappas all'inveggia, per tu una fa l'umunde e bulega l'ute. Oh man, che dire della vita, canice in van sulle. Mangia per un nulla.
Moi je parle pas en tant que citoyen paysan, je suis pas, là ça me concerne pas vraiment l'évolution de la PAC. C'est sûr que s'ils veulent maintenir des prix à la consommation bas, c'est-à-dire qu'en fait les mécanismes complexes de prélèvement et de redistribution font en sorte que les consommateurs les moins fortunés qui payent a priori moins d'impôts que les plus fortunés puissent payer le kilo de bouffe au même prix que ceux qui ont du fric, eh bien, on est obligé de garder la PAC, quoi. Ouais.
Le jour où il n'y a plus de PAC, que les prix de la nourriture augmentent, comment vont faire les gens pour se loger ou ce genre de choses?
Ouais.
C'est vachement ambitieux comme système.
Ah, mais c'est un truc, c'est très politique, hein, mais c'est pour ça, cette question en fait, comment on voit l'avenir de l'agriculture, c'est, le choix il est politique, au sens noble, quoi, je veux dire. C'est que c'est soit, là voilà, on le touche du doigt avec ça, là, par rapport à la part de budget des ménages consacrés à l'alimentation et consacrés à d'autres choses. C'est vrai qu'on maintient artificiellement une part de budget destinée à l'alimentation, une part basse, et ça permet, à côté de ça, au secteur immobilier par exemple, de profiter plein pot de ces lorgies, je veux dire. Non mais, nous on est bien placés, on a été locataires, dans une région à forte pression foncière, immobilière, comme on disait tout à l'heure, on était locataire, on a vu l'indécence de la spéculation immobilière. Je peux te dire que si tu n'es pas anticapitaliste avant d'avoir vécu ça, eh bien, tu le deviens. C'est impossible, même la personne la moins politisée du monde, elle vit ça, quand on te loue des taudis à 600 balles par mois.
Des trucs insalubres.
Complètement, des trucs insalubres. Quand tu vois tous les gens qui gravitent autour d'agents immobiliers, de promoteurs et tout, qui trouvent ça tout à fait normal d'afficher leur richesse, d'étaler leur richesse, quoi, qu'un pignon, je ne sais pas, sur rue, qui étale ça, quoi, au grand jour, et que c'est des modèles de réussite, tu comprends l'indécence, quoi, de ce système. Et après, on nous dit toujours, à nous, paysans, nous qui faisons la vente directe, du coup, Le truc c'est trop cher, je l'ai entendu des milliers de fois dans ma vie.
C'est
trop cher. Le jour où on gagnera 3000 balles par mois en travaillant 30 heures par semaine, peut-être, je veux bien qu'on me dise que c'est trop cher. Tant qu'on gagne 1000 balles par mois en travaillant 60 heures par semaine, c'est pas trop cher.
Non.
Ça pour dire, il y a une place pour les, pour la vente directe, pour les circuits courts. La grande distribution et contrôle encore les trois quarts des ventes de fruits et légumes en France. C'est 75%, c'est énorme les volumes, c'est énormissime. Rien n'empêche les circuits courts de se développer jusqu'à ce que les gens, que leur part régresse quoi, à la grande distribution, et que ce soit nous qui pesions, nous tous, quoi, producteurs de... Mais petits nous, producteurs de France, quoi, de...
Dans un contexte rural ou semi-rural, c'est faisable, mais dans les mégapoles...
Ben ça marche bien.
Lyon, hein. Marseille, Paris, comment ils font
Et comment ils faisaient avant que la grande distribution?
Ah ben, mais déjà les villes n'étaient peut-être pas si grosses.
En termes de population, Paris je connais pas, mais Marseille que je connais un peu.
Ouais, ça n'a pas trop évolué, tu me diras.
Il y a un million d'habitants depuis, ça fait 100 ans qu'il y a un million d'habitants à Marseille. Après, autour, c'est vrai que ça s'est énormément bétonné, urbanisé. Voilà, mais de toute façon, la bouffe qui est produite, la bouffe qui est distribuée dans les villes, elle est bien produite quelque part.
Mais oui.
Donc ce quelque part, ça pourrait être plus des circuits plus courts. Alors c'est vrai que j'imagine pas un maraîcher d'Andalousie venir vendre ses légumes à Toulouse ou à Marseille. Voilà, ça c'est sûr que là, t'es obligé de quand t'allonges les temps de transport, les distances, t'es obligé de rationaliser, d'industrialiser le transport et la distribution. Mais justement, c'est l'occasion aussi de dire, y a encore des terres, il s'en est beaucoup bétonné, il s'en est beaucoup artificialisé, mais il y a encore des terres nourricières autour des villes. Donc et après, voilà, du coup, l'avenir de la profession... je pense que c'est le principe de la démocratie, c'est-à-dire chacun est libre de la démocratie libérale, c'est ça, c'est chacun est libre d'avoir les opinions qu'il a, de les exprimer, chacun est libre d'entreprendre, mais on voit bien où ça mène, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté d'expression, tout le monde est libre de a le droit de vote, c'est vrai que tu as une foultitude de candidats, mais le résultat c'est quand même un ultra-libéral contre l'extrême droite. Ça fait quelques fois que c'est le cas. De la même façon, chacun est libre d'entreprendre, mais les trois quarts de la distribution, pour les fruits et légumes, pour l'alimentaire en général, c'est contrôlé par des multinationales de la grande distribution. Parce que Leclerc, Carrefour et tout, ils sont en France, ils sont français, mais ils sont sur tous les continents. Quoi. Donc effectivement, il y a cette liberté, il y a toujours la place pour une niche. Quoi. Mais pourquoi ça reste qu'une niche? Alors je sais pas, peut-être que c'est nous qui avons tort, parce que si on est minoritaire, c'est qu'on a tort. Si les autres n'y croient pas, c'est peut-être qu'on a tort, en fait.
Ça, je sais pas.
Voilà, moi, je pense pas. Et donc, je pense que cette niche, on est condamné à rester dans cette niche, en espérant qu'elle se rétrécisse pas, en fait.
D'autant que, il y a des fonds d'investissement, ou même la grande distribution achète des terres, désormais, pour produire. Les paysans deviendront les salariés de ces gens-là. Ça risque d'être...
C'est la fin de la paysannerie. Se présente en sauveur, tu sais.
C'est la fin de la paysannerie comme on l'a toujours connue, en fait. Parce que dans la structure... socialement, les paysans aujourd'hui, ils ont la même place, le même fonctionnement qu'il y a 1000 ans en arrière, quoi. Pas 1000 ans, parce que c'était le Moyen-Âge, et c'était des serfs, mais même peu, quoique. Mais je veux dire, c'était une agriculture familiale, quoi. Alors, plus ou moins, voilà, il y a eu la mécanisation, il y a eu la spécialisation, tout ça depuis, mais ce truc de fonds d'investissement et de faire de transformer les paysans en salariés, quoi, ça c'est nouveau, quoi, quand même. Quoi. C'est un truc, c'est complètement inédit, quoi. On dit, les pratiques vertueuses, on incite les paysans à passer en bio. C'est très bien. Moi, en tant que citoyen et en tant que paysan bio, je m'en félicite.
Oui.
Mais si derrière, on ne crée pas les conditions, on ne crée pas le marché, on ne permet pas aux produits de se vendre, on arrive dans une impasse. Là, on a incité depuis massivement, quoi, depuis 10 ans, les producteurs à se convertir en bio. En lait de vache, il y a eu une explosion des conversions. Le résultat, c'est que la demande, elle a stagné. Il y a des volumes énormes qui arrivent sur le marché parce qu'il y a des grosses fermes de vaches laitières qui sont passées en bio. Les types en bio, ils ont baissé leur rendement, du coup. Ils ont augmenté leurs charges, parce que être en bio, c'est pas de la magie, quoi. C'est que tu travailles plus, ou tu as plus de frais, et pour avoir moins de produits. Si c'est plus cher, c'est pas que les producteurs spéculent là-dessus, c'est qu'on a des coûts de production qui sont supérieurs pour des rendements qui sont inférieurs, quelle que soit la production concernée. Donc ils baissent, ils augmentent leurs charges, ils baissent leur production, et les distributeurs, les coopératives leur disent « Mais on n'a pas la vente là, il n'y a pas de demande, on vous le déclasse, on est désolé. »
Et ouais, ils le vendent conventionnel.
On vous le paye au prix du conventionnel. Et là, tu vois qu'on arrive aux limites d'un truc, c'est-à-dire qu'il y a une niche. Effectivement, c'est 25%. Tant que tu restes là-dedans, ouais, il y a de la place. Et peut-être que tu vas grappiller, tu dis, ouais, il y a des perspectives. Mais tu arrives à un plafond, le plafond de verre, c'est pas que pour les élections. Le plafond de verre, c'est que quand tu as un marché, tu as une niche de consommation, et bien, c'est pas prévu pour que ça aille au-delà, quoi. C'est prévu, ce qui est prévu, c'est que les trois quarts des gens, ils continuent à acheter du conventionnel, à l'acheter, à faire leurs courses au supermarché. Ils peuvent acheter aussi du bio au supermarché, ça ne règle pas le problème. Et voilà, point, quoi. Ça ne peut pas être tout de juste sur la bonne volonté. C'est pas parce que si tous les paysans passent en bio demain, eh bien, c'est pas pour autant que tous les consommateurs seraient prêts à payer cette différence, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, c'est aux politiques d'agir. C'est pas juste d'inciter, dire « Oui, voilà, non, mais c'est une affaire de bonne volonté. » Non, c'est une affaire de forte volonté politique. Quoi.
Ça va bien plus loin.
J'ai fini de poser toutes mes questions. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé et qui vous semblerait important ?
Non, mais des choses à dire, on peut
rester. Ouais.
Ah oui, oui,
ouais,
ouais.
Tu t'en émerdes bien, tu parles bien et tout.
Ah, bah, des choses à dire. Il y a des choses à dire.
Tiens, ouais. Tellement de choses qu'on rumine et
oui, on puis, rumine. Puis nous, notre métier, c'est un peu, enfin, comment dire, c'est un peu un acte de rébellion. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu du militantisme aussi.
Ouais, c'est ça.
Pas du militantisme. Tu vois ce que je veux dire, Jamin ?
Je sais pas, mais
c'est essayer d'être en accord avec tes idées en faisant
ouais, ton voilà,
c'est ça. C'est ça.
C'est l'avantage quand on travaille, quel que soit le travail. Les choses, tu les vois de dedans, quoi. Tu les comprends, tu comprends comment fonctionne un système, quoi. Ou que tu sois, quoi que tu fasses, que tu sois salarié du tertiaire, que tu sois paysan, que tu sois artisan, que tu sois commerçant, que tu sois ouvrier, que, tu vois. Mais au bout d'un certain temps, tu vois, tu comprends comment ça marche, quoi. Et moi, ça me conforte. Si tu veux, j'avais des opinions un peu théoriques, quoi, quand j'avais 18 ans, quoi. Et il y a des choses où j'ai changé de point de vue, donc j'ai changé de d'avis, tu vois, j'ai évolué. Mais quand même, globalement, il y a pas mal de choses, ça m'a conforté, quoi, dans la perception du monde, quoi. Je comprends mieux comment ça marche, quoi. Le système politique, économique, il y a plein de choses qui me passent à 36 000 pieds au-dessus, mais j'en comprends beaucoup plus que plus jeune, quoi. Et c'est pas forcément... ça fait pas rêver, quoi. Ouais. Ça fait pas forcément
rêver. On comprend le système tout en étant dans le système, quand même.
Parce et en même temps, et voilà, et ça apprend ça, ouais. Ça apprend quand même un peu de compromis, parce que ben, le système, on est dedans aussi. Tu vois,
on investit, on
le marchand de matériel qui
voilà,
est passé là,
c'est
tu vois,
ça, c'est ce que j'allais
qui
dire.
Est passé, ben, on sait toute la machine qu'il y a derrière, ouais. Et à commencer par la banque qui nous finance, et les usines qui ont produit ça, et ces minerais, et cette énergie, et tout ça, quoi. Et il y a une part de paradoxe aussi, quoi, hein, de contradiction, quoi, et c'est plus difficile d'être absolu quand t'es absolutiste, quoi, tu vois, un puriste... Quand t'as les mains dedans, quand t'as les mains dans le cambouis, que quand t'es à la terrasse du bistrot, à vivre d'autres choses, quoi. Voilà. Voilà, on peut pas être des puristes, quoi. On peut pas être des puristes, mais en même temps, ça enlève rien à la colère de voir comment ça fonctionne, quoi. Au contraire, parce que c'est dire, on est là dedans, c'est pas pour nous dédouaner de nos choix, mais on est là dedans. Parce qu'on peut difficilement faire autrement, en fait. Si on veut faire ce métier, ça nous est pas impossible, mais en tout cas, ça nous est très difficile de faire autrement que la façon dont on l'a fait maintenant.
Encore un grand merci à Benjamin et Marion, et souhaitons-leur bonne route.
Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiosaintafrique.com, onglet émission, rubrique les hebdos. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.